On continue l'épître de Jacques pour vous remettre dans le contexte. Jacques, il parle, il est en train de parler aux Juifs qui sont dans la dispersion, des gens qui sont dans la souffrance, qui ont été dispersés, ils sont pas à Jérusalem dans leur grosse église, ils sont pas à Jérusalem parmi les frères et sœurs. Au début, ils persévéraient avec, dans l'enseignement des apôtres, mais il est venu un temps où il y a beaucoup de chrétiens, mais tous les chrétiens ont quitté Jérusalem à cause de la persécution. Il restait un que les 12 apôtres. Fait qu'à quelque part, ça a brisé la communion fraternelle, ça a brisé des choses. Puis les gens trouvaient les choses dures. Quand tu as quitté ta maison, si tu demeurais, tu perds tes biens. Puis là, tu te trouves dispersé. C'est beau, mais ça nous arrivera aujourd'hui. On recommence à zéro notre vie. Puis on est plus ensemble. On est obligé d'essayer de se réunir avec d'autres qu'on connaît pour pouvoir s'encourager ou se nourrir de la parole de Dieu. C'est pas facile. Puis là, on a vu toutes sortes de points que Jacques a enseignés. On est encore dans le chapitre 1, dans Jacques au chapitre 1, le verset 16. Ce soir, on va voir le chapitre 1, les versets 16 à 18. On va voir que Dieu n'a qu'un plan de bénédiction pour ses élus. Qui d'entre vous ici pense que Dieu se réjouit de nous frapper, de nous démolir, de nous écraser, de nous priver, puis de nous faire souffrir juste par peu plaisir? Qui pensera que ça peut... Mais il y a des gens qui pensent ça. Ce soir, on va voir des paroles que Jacques a données à ces gens-là. N'oubliez pas que ces gens-là souffraient. Fait que là, ils se disaient, mais c'est Dieu qui nous fait souffrir. Autant qu'on a vu la deux semaines que les gens étaient tentés, puis là, Jacques les a dit, allez pas dire que c'est Dieu qui vous tente, c'est pas Dieu qui vous tente. Là, ce soir, on va voir une autre chose que les gens confessaient dans ce temps-là, parce qu'ils souffraient. Puis on va faire un genre d'éclaircissement qui est nécessaire à faire sur ce point-là, pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui vient pas de Dieu. Dans Jacques 1, les versets 16 à 18, ça nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas, puis il dit, tout ce qui nous vient de parfait vient d'en haut. Il nous engendrait selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » C'est ce qu'on va voir ce soir. Le premier point qu'on va ressortir de tout ça, en partant du verset 16, qui nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Pourquoi qu'il est nécessaire que Jacques dise, « Ne vous y trompez pas. » Trompez-vous pas dans votre manière de penser. Parce que c'est fréquent que les chrétiens pensent à l'envers, pensent pas comme faut. Puis il est important de toujours référer à ce que la Bible dit sur les sujets, parce que humainement parlant, on a des idées, humainement parlant, mais c'est pas nécessairement la manière que Dieu voit les choses. Puis si on y va aux yeux humains, quand on souffre, on dit, mais c'est Dieu qui mène toutes choses, donc quand que je souffre, c'est Dieu qui me fait souffrir. Humainement parlant, on va tout de suite, on va avoir ça comme réflexe. Mais il faut comprendre des choses. Il y a plusieurs enjeux dans la vie. Il n'y a pas juste Dieu qui agit. Le diable agit, le monde agit, notre chair agit, on a nos décisions, puis des fois, on a des conséquences de nos décisions. Fait qu'il y a plusieurs enjeux. Fait que quand il nous arrive quelque chose, c'est pas toujours Dieu qui a fait la chose. Faut faire attention. Même si Dieu savait que c'était pour nous arriver, parce que Dieu sait toutes choses, c'est pas tout le temps Dieu qui fait les choses, même s'il permet qu'ils nous arrivent. Fait que là, Jésus a déjà mentionné la même chose en disant aux gens qui écoutaient les enseignements de Jésus. Jésus leur a dit, vous comprenez pas bien la parole de Dieu. Jésus lui a dit ça dans Marc 12, 24. Mais il faut faire attention parce que il y a une manière de raisonner qu'on peut avoir des fois, puis c'est pas la celle de Dieu. Puis Jésus leur avait dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il est important que notre manière de penser soit ajustée. C'est pas pour nous faire un reproche. C'est pour nous arriver à ce qu'on comprenne les choses de la bonne façon. Parce que si on comprend pas les choses de la bonne façon, on enseigne des faussetés, autrement dit, on croit en des faussetés, puis il n'y a rien qui marche. Parce que si on est, notre foi est basée sur du mensonge, qui n'est pas les vraies choses, si on comprend pas les Écritures ni la puissance de Dieu, mais on va interpréter les choses à l'envers, on va croire en l'envers, puis là, c'est comme si on est en train, autrement dit, de se battre contre Dieu. Parce que là, si il nous arrive la souffrance, comme les gens, ils vivaient de la souffrance, puis là, il dit, là, il y a des choses que vous comprenez pas, là. Autant que j'avais dit il y a deux semaines, allez pas dire que c'est Dieu qui vous tente quand vous êtes tenté. Dieu peut pas être tenté par le mal. Mais dans la souffrance, c'est la même chose. Allez pas dire que c'est Dieu qui prend plaisir à nous faire souffrir quand on souffre. Ça peut arriver que Dieu serre la vis dans des moments où ce qu'on est rebelle face à sa parole. Oui, ça peut arriver. Mais ce qu'on va voir ce soir, c'est que Dieu, à la base, il n'est que bonté. Ses dons, ses cadeaux, c'est des dons parfaits qu'il donne. Justement, c'est ce qu'on va voir, le premier point au verset 17, il est important de réaliser que les épreuves qui arrivaient ne viennent pas de Dieu. Ce que les chrétiens sont en train de vivre comme persécution, ils sont persécutés, ils sont dispersés, c'est pas Dieu qui les a dispersés, bien que Dieu a permis qu'ils soient dispersés. Dieu a permis que les humains méchants, puis que le diable qui est méchant, persécute les chrétiens, puis en fasse mettre à mort. C'est pas Dieu qui prenait plaisir à faire souffrir ses enfants, mais ses enfants, ils ont affaire à s'en aller, puis Dieu leur a donné un moyen de sortir de leurs épreuves en leur accordant un endroit temporairement, un endroit peut-être qui est pas plaisant à vivre, mais c'est encore mieux que de se faire tuer dans une persécution. Puis là, Jacques est obligé de ramener ça pour leur dire, toute grâce excellente, là. Les grâces, on sait qu'une grâce, c'est un cadeau. Fait que tout cadeau excellent, tout don, qui est encore un cadeau parfait, descend d'en haut. Dieu, il donne pas des mauvaises affaires. Vous vous rappelez, quand Jésus, il explique, il dit, si donc méchant comme vous êtes, en parlant aux humains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qu'il cherche? Dieu, il est bon. Tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut. Quand il nous arrive des malheurs, c'est pas Dieu. Il y a comme j'ai dit, il y a différents facteurs qui peuvent arriver comme un exemple. On est privé de l'arbre de vie. Dieu avait au début de la création, il avait mis un arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Puis si on aurait mangé de cet arbre de vie-là, on sera toujours en santé. On sera toujours guéri de nos maladies, puis on vivrait éternellement sur cette terre. Mais étant privé de cet arbre, notre corps, il devient malade par l'usure, par le vieillissement. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi qu'on devient malade. Ça peut être des accidents aussi. Ça peut être des défauts de manufacture, parce qu'à la longue, depuis 6000 ans qu'il y a de l'histoire humaine sur la Terre, les gens, dans leur génétique, ont des défaillances puis des faiblesses. Puis un système qui a besoin d'être remonté souvent. Puis là, Dieu, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il donne ses bénédictions, puis il guérit, puis il restaure, puis il fait du bien. Parce qu'on ne peut pas prendre de l'arbre de la vie puis de vivre éternellement. C'est de valeur puis c'est pas de valeur. Parce que je ne serais pas vraiment intéressé de vivre éternellement dans un corps comme qu'on a. On a bien plus à gagner de s'en aller dans l'autre corps qu'on va avoir après puis de vivre la vie sans fin. Mais Dieu savait, c'est pour ça que quand les premiers ont péché, il a fermé l'accès. Plus personne ne pouvait retourner pour trouver cet arbre-là. Mais Jacques, il parle contre ceux qui succombent aux persécutions puis aux autres tentations, puis il rejetait la faute sur Dieu. Il disait que c'est à cause de Dieu ce qui nous arrive. Puis là, il disait que même c'était à cause de Dieu qui poussait les hommes au péché. Puis il montre que Dieu, qui était parfaitement saint, Jacques, c'est ce qu'il essaye de dire, Dieu est tellement parfaitement saint qu'il porte que les hommes qu'au bien. Dieu ne veut que notre bien. Il n'y a que des bénédictions à donner. Si nous, qu'on est méchants, incapables de donner de bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père, qui est bonté, qui est amour. Dieu est amour. Dieu, il n'est pas méchant. Méchant, ça, c'est le diable. Dieu, il est amour. Il nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils pour qu'on puisse être pardonné. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à faire ça, de sacrifier son Fils pour pardonner à quelqu'un d'autre? Il n'y a pas grand monde ici qui sera prêt à sacrifier un membre de leur famille. Mais Dieu l'a fait, puis c'est Dieu lui-même qui s'est offert en sacrifice. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que l'amour, la mort de son Fils. Dans 1 Jean 1,5, ça nous dit, puis ça c'est un, prenez conscience de ce verset-là, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. » Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas un once de méchanceté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste puis qu'il châtira pas. Dieu châtie pas parce qu'il est méchant. Dieu châtie à cause de sa justice. Il ne peut pas laisser le péché, il ne peut pas laisser passer sans punir le péché. Mais c'est pas à cause de la méchanceté qui l'anime, c'est à cause qu'il est saint, qu'il est juste, qu'il est obligé. C'est dans sa justice qu'il fait cela. Fait que Dieu, quand il fait, il n'est que lumière, bonté, amour, mais en étant juste. Puis c'est pour ça qu'il fallait que quelqu'un paye pour le péché, puis dans sa justice, il a permis que son Fils vienne payer pour les autres. Donc, le péché, il a été payé par Jésus-Christ. Fait que, pour arriver à comprendre, imaginez pas que Dieu se plaît à la méchanceté, puis qu'il ferait exprès de vous frapper parce qu'il est méchant. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, il est amour, puis il nous aime tous, puis il veut pas qu'aucun périsse, puis il veut pas qu'aucun ait du mal. Des fois, par amour, il va être obligé de serrer la vis sur quelqu'un, pas par méchanceté. Quand on chicane nos enfants, c'est parce qu'on prend plaisir à être méchant puis vouloir les torturer, pas du tout. Quand on punit nos enfants, c'est parce qu'on les aime puis on veut leur bien. On veut qu'ils soient corrigés pour qu'ils évitent des grandes erreurs plus tard. Oui. Dans Éphésiens 5, les versets 8 et 9, ça nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, nous étions ténèbres, nous marchions dans la méchanceté autrefois, avant d'être chrétiens. » Puis même des fois, après que tu sois chrétien, ça peut arriver. « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Si on était racheté par le Dieu que je vous ai dit, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Puis là, il dit, maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Mais là, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Ça, c'est le fruit de la lumière. Mais Dieu est lumière. Dieu, c'est bonté, justice, vérité. Dieu, il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais il nous demande à nous, parce qu'on est devenus des enfants de la lumière, de marcher à l'exemple de notre Père qui est dans les cieux. Marcher dans la bonté, la justice et la vérité. Un exemple, quand on le sait qu'on a des épreuves, puis là on le dit, on se dit, c'est-tu Dieu qui nous frappe? Non. Dieu permet que l'épreuve arrive. Mais c'est pour notre bien quand il permet. Est-ce que Dieu nous permet des épreuves parce qu'il veut, il rit de nous voir souffrir? Non. Dieu n'a pas de mal en lui. Donc, quand il va avoir des choses qu'on a à vivre, c'est pour notre bien. Comme tu nous dis dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Fait que Dieu est capable de tourner au bien tout ce qui va nous arriver, même la souffrance. S'il nous arriverait de souffrir, comme ces gens-là qui étaient persécutés, dispersés, puis ils souffraient, puis ils se plaignaient que dire que c'était Dieu qui lui faisait souffrir. Non, Dieu vous a béni en vous protégeant, vous donnant un endroit où vivre, pour pouvoir survivre. Je parle à ceux qui étaient là. Puis Dieu se sert de ça pour ton bien. Il veut former ton caractère, il veut t'aider à devenir plus saint, à devenir plus comme ton Père céleste. Puis, en plus, te permettre de te ramasser des récompenses éternelles, parce qu'il y a des récompenses pour la souffrance. Fait que Dieu laissera pas échapper, « Oh, t'as souffert, mais endure, puis t'arranges-toi avec tes... » Non, Dieu va t'aider, puis en plus de ça, il va te récompenser parce que tu as persévéré avec foi dans ta souffrance. Gloire à Dieu. Il y a un verset pour dire que Dieu, il dit « Toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu, il n'a pas changé. Le même que tu vois dans le temps de Jésus, qui est en train d'agir à travers Jésus, c'est un même Dieu-là, est encore le même qui est en train d'agir aujourd'hui. Puis même Jésus qui était là dans ce temps-là, il est encore le même aujourd'hui. Dieu change pas. Fait qu'imaginez-vous, Dieu œuvrant à travers Jésus, rencontrant les personnes malades, rencontrant des personnes infirmes, des personnes mortes, puis il les guérissait tous. C'est un Dieu de méchanceté. C'est un Dieu de bonté. Il était là pour guérir tout le monde, délivrer tout le monde qui était sous l'emprise du diable, puis il a ressuscité des personnes qui étaient mortes, puis les a rendues à leur famille. Tout ce que Jésus pouvait faire pendant son vivant, c'est le même Dieu qui était là avec Jésus, puis c'est le même Jésus qui est pareil dans ce temps-là, qui est encore là aujourd'hui avec nous, puis qui veut faire le même bien en nous et à travers nous. Ce même Dieu-là va agir de la même façon. En Hébreux 13, 8, ça nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Puis notre Dieu, notre Père, il dit « Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu ne change pas, puis ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Savez-vous que Dieu a des projets grandioses pour ses élus? Ses élus, c'est nous qui l'avons accepté. Dieu a des projets extraordinaires, grandioses. Dans Jacques, il est en train de le dire au verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Dieu a engendré ses enfants pour qu'on soit les prémices. Les prémices, là, c'est la première récolte. Ce qui est offert à Dieu. Au début de la saison, quand c'était le temps de la récolte, la première batch qui ramassait de blé, il allait l'offrir à Dieu en sacrifice. Puis il l'offrait, puis ça appartenait à Dieu, cette première batch-là. Ça s'appelait les prémices. Nous, nous sommes la première batch de ce qui appartient à Dieu. On est la première récolte, les premiers de sa récolte, pour faire de nous des premiers. Il va y avoir des deuxièmes. Soit le voir dans les prochains versets. Dieu a des projets, je reviens avec la même idée, il veut faire de nous ses prémices. Oubliez pas ça. Il veut pas faire de nous les derniers. Il veut faire de nous les premiers. Dans Jérémie, je l'ai lu l'autre fois, ce passage-là, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Fait que Dieu a des beaux projets en réserve. On a-tu hâte de voir ces projets? Amen. On a commencé tranquillement, on vit des choses, c'est le plan de Dieu qu'on est là. Dieu veut nous utiliser pour sauver d'autres personnes. Ça, c'est dans les projets terrestres. Puis, il n'a pas dit que ça sera facile. Puis, il a même dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Mais il a dit, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Le même Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, il est là aujourd'hui avec nous. Il ne nous a pas dit que ça sera facile pour notre temps terrestre. Je vais vous lire deux petits versets pour vous parler des choses célestes qui s'en viennent. Apocalypse 20, le verset 6. Vous saviez que Jésus va revenir, puis on sait dans pas long. Je vais en parler un petit peu plus à un moment donné, quand le Seigneur il va m'amener à cela, prêcher pour expliquer un peu que Jésus a annoncé son retour, puis il va revenir. Puis on est à la veille, c'est bientôt. Il y a des choses qui se mettent en place, il en reste encore à s'accomplir, mais c'est bien plus proche là que ça l'était il y a 2000 ans. Savez-vous qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur, avec ses prémices? Premièrement, il va nous ressusciter tout le monde. Si on est mort avant qu'il revienne, il va tout ressusciter les chrétiens, tous ceux qui sont ses élus de ses prémices. Ils vont tous ressusciter, revenir avec Jésus en même temps avec lui. Puis nous qui sommes vivants, en train de l'attendre, on va le voir retentir, puis en un instant, en un clin d'œil, on se retrouve avec lui sur un nuage, dans un corps ressuscité, un corps immortel. Ça va être extraordinaire. Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Il nous dit, dans Apocalypse 20, le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » La prémisse, les prémices vont avoir le droit à la première résurrection. Alléluia! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de temps de feu pour ceux qui vont avoir part à la première résurrection. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jésus s'en vient s'installer sur cette terre, il va prendre le contrôle de la planète, puis ça sera plus le gouvernement des nations qui va mener, c'est le gouvernement de Dieu. Jésus-Christ, ça va être le gouvernement de Jésus-Christ, il va prendre le contrôle de la planète, puis c'est lui qui va régner sur cette terre, puis avec qui va-t-il régner?
Dieu.
Avec nous. Nous allons régner avec le Christ pendant... Là, c'est écrit 1000, mais on ne sait pas la vraie valeur de ce chiffre-là, parce que le mot qui a été écrit là, en grec, ils savent pas l'équivalent en français, ils ont écrit 1000. Mais ça peut être 10 000, 20 000 ans. C'est lui qui décide, mais le diable sera plus là pendant cette période-là, puis ça va être un règne de paix sur la terre pendant tout le temps où ce que Jésus-Christ va régner, où ce que nous allons régner. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, régner? Nous allons être des rois et des seigneurs sur tout le monde qui va rester. Puis le monde va continuer à se peupler sur la terre pendant cette période-là. Puis on va régner sur l'humanité. Ça vous excite pas plus que ça? Moi, je trouve que c'est des projets extraordinaires que Dieu a pour nous. Là, il y a deux mains, une, deux. Mais il dit dans une parabole, il dit que celui qui avait reçu 5 talents, il t'a rendu à 10, il a reçu le gouvernement d'10 villes. Celui qui avait 2 talents, il t'a rendu à 4, il va recevoir le gouvernement de 4 villes. C'est tout dépend. On va avoir des différents grades dans la royauté. On va régner sur plus de territoire, moins de territoire. Mais un gouvernement, c'est formé de plusieurs personnes. Je ne sais pas quel genre de gouvernement que ça va être, mais c'est théocratique. C'est Dieu qui va régner. Et nous, on va être dans le gouvernement. On va être des rois et des seigneurs.
Est-ce qu'on va gouverner sur des personnes qui sont sauvées ou
pas sauvées? Non sauvées.
Non sauvées.
Ici. Pendant les 1000 ans. C'est, on va dire 1000 parce que c'est le chiffre qu'ils ont donné comme équivalence. Ou ça.
Est-ce que les gens non sauvés vont reconnaître Jésus?
Oui, ils vont le voir. Puis le diable ne sera plus là. Il va être enfermé pendant cette période-là. Puis, fait que les gens, il va se passer quelque chose de spécial que je ne sais pas. Ben, ça l'explique pas tout. Mais ça l'explique que ces gens-là, il va leur être permis. Mettons, s'il y en a un c'est des gens mortels. Si, ça dit dans la Bible, dans un verset dans l'Ancien, ça dit, s'il meurt à 100 ans, il va mourir jeune. Fait que la longévité va recommencer, ils vont vivre de plus en plus long. Puis il a dit, il n'y a pas de parents qui vont mettre des enfants au monde pour les voir mourir. C'est écrit aussi. Puis dans cette période-là, c'est écrit aussi qu'un lion et un mouton vont manger de l'herbe ensemble. C'est écrit qu'un bébé va prendre un serpent venimeux et ça ne lui fera aucun mal. Il n'y aura plus de mal, de méchanceté animale ou de méchanceté entre humains.
Comme dans le jardin
d'Éden, c'est la gloire de l'Éternel qui va remplir la terre. Les gens de nature pécheresse, ils vont avoir un corps qui peuvent encore mourir, mais la vie va rallonger pour eux. Mais nous, on est là pour régner dans un corps qui ne meurt plus. Nous sommes les ressuscités qui vont vivre parmi les mortels. On va être les immortels parmi les mortels. Puis ils vont nous honorer. On va recevoir des honneurs, puis nous autres, on va tout redonner cette gloire-là à Jésus, parce que tout revient à lui.
Tu penses-tu qu'on peut être encore sujet à la tentation?
Nous, non. On n'aura plus un corps corruptible. On va ressusciter dans un corps incorruptible. Ça veut dire qu'il n'y a plus de moyens de se corrompre. On n'aura même plus les tentations. C'est fini. Un corps qui n'a même plus de sexualité, parce qu'à la résurrection, il n'y a plus de sexualité. C'est pas nous qui va faire de la sexualité pour se reproduire et puis grossir la planète. C'est les humains qui sont non ressuscités, qui sont encore sur la planète pour repeupler la planète. Parce que dans cette période-là, je vous l'avoue qu'au début, il ne restera pas beaucoup de monde de vivants. Avec qu'est-ce qui s'en vient? Il y a la grande tribulation qui s'en vient, puis il va y avoir les jugements de la colère de Dieu quand Jésus va revenir. Puis si les jours de la tribulation ne seraient pas abrégés, il n'y aurait pas personne de sauvé. Mais à cause des élus qui sont là dans la grande tribulation, les jours vont être abrégés. Sinon, si ça ne sera pas été abrégé, tout le monde sera mort, tellement que ça va être laid comme catastrophe sur la terre. Je vous dis pas que ça va être facile, pas du tout. Ça va être terrible. Il y en a qui vont mourir de peur, juste d'angoisse et de terreur de voir ce qui s'en vient sur la terre comme cataclysme. Des montagnes vont s'écrouler en rocher. Toutes les montagnes vont se briser, vont s'écrouler en rocher. Des îles vont changer de place par des tremblements de terre incroyables. Ça va être très grave. Il faut s'attendre là à les choses les plus pires qu'on peut pas s'imaginer. Des étoiles qui tombent du ciel, là, c'est des pluies de météorites. On faut s'attendre à toutes sortes de choses. Mais l'important, c'est qu'on est sur le bon bord.
Ça, c'est avant l'enlèvement?
Oui. Puis, l'autre affaire, parce que là, j'en ai dit une partie, je lui avais dit deux versets, je voulais pas trop embarquer sur ces signes-là, mais c'est le fun de toujours en reparler. Mais je veux pas semer de l'angoisse, je veux qu'on regarde, comme j'ai dit tantôt, Dieu, il y a des choses qui ont été décrétées qui vont s'accomplir. C'est écrit dans les versets. La révélation est donnée, on peut pas passer à côté de cela. Individuellement, on peut embarquer dans l'arche du salut, puis on l'est embarqué. Persévérons dans la foi pour notre salut. On ne sait même pas si on va être encore vivant, mais que ça arrive. On peut finir ça cette semaine, puis on meurt tôt que c'est fini, puis l'enlèvement est juste dans 10 ans, mettons. On peut mourir n'importe quand, là. Faut pas se faire des peurs avant que ça arrive, voyez-vous. Mais ça, prenons de l'assurance que Dieu est avec nous, puis Dieu a un plan. Puis si son plan, c'est qu'on meurt torturé ou on n'a pas eu le choix, mais ça arrivera, parce que ça arrive déjà à des chrétiens ailleurs. On peut pas changer rien. Ne renions pas Jésus à cause de la souffrance. Tout est à gagner de persévérer. Puis tout don parfait vient du Père des Lumières. Il faut s'attendre que Dieu veut bénir ses enfants. Puis s'il arrive à rien, gloire à Dieu, ça arrive de quoi? Gloire à Dieu quand même. Tu sais? Puis persévérons dans la foi. Parce que le temps de 1000 ans, ça va être extraordinaire. Et le temps éternel après ça, parce qu'après que le 1000 ans soit fini, c'est la vie éternelle sans fin dans le royaume de Dieu, sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puis qu'est-ce qui va nous arriver à nous qui sommes ses prémices? Apocalypse 22:5. Il y aura plus de nuit sur cette nouvelle terre-là. Il y aura plus de nuit, il y aura même pas de soleil pour éclairer. C'est Dieu lui-même qui éclaire de sa gloire. On va voir Dieu de nos yeux. Ça va être extraordinaire. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera sur cette nouvelle terre. Et ils régneront au siècle des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles pour l'éternité. On va être des rois et des seigneurs sur sa nouvelle création. Ça va être extraordinaire. Y a-tu des projets de bonheur? Y veux-tu nous donner une espérance dans un avenir? Ça va être extraordinaire, mais qu'on arrive l'autre bord. Dieu veut pas notre malheur. Il veut nous bénir. Puis il y a des projets. Mais il nous avertit, c'est pas facile. Il y a des choses, il y en a qu'il va falloir vivre des choses. Mais il faut persévérer. Amen.
Amen.
On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui veut nous encourager. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Tu es rempli d'amour, de justice, de bonté, de vérité. Tu es lumière. Puis il n'y a pas de ténèbres en toi. Seigneur, garde-nous dans cette pensée qu'il n'y a que de bon, que du bon, tout don excellent, toute grâce parfaite qui vient de toi. Seigneur, on veut s'attendre à tout ce que tu as donné comme bonté. On veut pas croire que c'est toi qui fais la méchanceté, on veut croire et espérer en ta bonté. Puis merci de ce que tu nous promets, de ce que tu as préparé d'avance pour nous. On veut regarder à toi, puis te persévérer jusqu'à la fin. Merci de cette parole que tu nous as donnée ce soir, qui va nous donner de persévérer. Je te rends grâce dans le nom de Jésus pour tout. Amen.
Amen.